Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Valentine Chédebois. À la technique ce matin, Sybille Clamins. Porter son regard cette semaine sur le petit essai de la France de Cioran, court texte rédigé en roumain en 1941 et dans lequel le philosophe fait l'éloge d'un peuple dont il relate la décadence. Petit extrait traduit par Alain Paruy. Les Français ne peuvent plus mourir pour quoi que ce soit. Le scepticisme cérébral est devenu organique, l'absence d'avenir est la substance du présent, le héros n'est plus concevable parce que personne n'est plus inconscient ni profond. Philosophe et psychanalyste, notre invité est professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers et professeur associé à l'École Nationale Supérieure des Mines de Paris. Elle dirige la chaire de philosophie du groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences qu'elle a créé. Son dernier essai est le remarquable « Sigil amer, guérir du ressentiment » paru chez Gallimard. Elle est aussi interrogée aux côtés des historiennes Mona Ozouf et Michel Perrault sur la devise républicaine dans « Liberté, égalité, fraternité » paru aux éditions de l'Aube.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde ?
Ah oui, j'avais oublié ça.
Eh oui, on n'y échappe pas.
Ah oui, j'avais totalement oublié. Oh là là, c'est difficile. En plus, c'est d'autant plus difficile de répondre à cette question aujourd'hui que... Il y a un personnage un peu particulier en régie avec nous, donc mon cher fils.
Oui, bien sûr.
Donc, malgré tout. C'est une question compliquée parce qu'en fait, on n'a pas eu l'occasion, on n'a jamais l'occasion de se dire, ça serait assez intéressant d'ailleurs, de se dire, tiens, je peux ne pas y aller. Ça serait merveilleux. Ça serait très intéressant. Moi, j'ai un petit côté Bartleby, j'ai un petit côté I prefer not to. Donc, j'aurais pu ne pas y aller, oui, sincèrement. Ça m'aurait plutôt... Oui, j'aurais pu ne pas y aller.
Bon, c'est une très jolie façon, très pudique de répondre à cette question. Alors, il y a quelques indices dans Sigil amer, mais comment se passe la cohabitation avec vous-même ?
Très bien.
Très bien ?
Oui, c'est pour ça. Non, moi, c'est terrible à dire ça. Moi, j'ai une cohabitation avec moi-même assez simple. Non, moi, je suis très sartrienne. Hein. C'est l'enfer, c'est les autres. Donc, c'est pas du tout... Mon problème, c'est pas moi.
Ah oui ?
Non, c'est vrai. Non, j'ai pas de difficulté avec la solitude. J'ai plutôt une difficulté avec le trop. Le nombre. Le nombre est une chose qui me déstabilise, qui m'ennuie, avec lequel j'ai beaucoup de mal, oui.
Vous écrivez dans Sigil amer, j'ai toujours pensé être née trop tôt, mais reconnaissons que même plus tard, l'affaire se serait révélée tout aussi mal barrée, si l'on veut jouer ici du sens lacanien. Et un peu plus tard, pour ce corps ridicule qui est le mien, je me tiens à distance, incapable de vivre tant d'émotions, sans en avoir la nausée. Ensuite, vous développez, et puis vous parlez de l'absence de sens.
Oui, bah, je crois que c'est assez...
On revient à Sartre.
Oui, bah, regardez, j'avais pas dans la tête ce passage, mais c'est vrai que moi je suis très l'idéal du bonheur à Ataraxie.
C'est-à-dire l'absence de souffrance.
L'absence de souffrance, et puis même l'absence d'émotion. Quelque chose qui me... La difficulté qui a été la mienne a été une difficulté, encore une fois, de la négociation avec le trop. C'était trop. Trop. Et c'est vrai que je suis toujours très, non pas admirative, mais de voir certaines personnes tout à fait capables d'attraper ce trop. Moi, je n'étais pas capable. Et ma seule manière de faire, c'était effectivement de mettre à distance, de symboliser, de voilà. Mais c'est trop.
Alors, c'est trop, c'est le monde extérieur qui est trop, Cynthia Fleury. Quand vous parlez d'absence de sentiments, est-ce qu'on peut y accéder ? Est-ce que ça se travaille ?
L'absence d'émotion, oui, bien sûr, ça se travaille, mais c'est très dur. C'est très, très dur. C'est très, très dur parce que, malgré tout, ce que les stoïciens ou d'autres écoles philosophiques essayent d'instruire, de nous montrer, ce n'est pas non plus la réalité d'un automate. ce qui serait l'absence de sentiments, etc. C'est pas ça. Donc c'est quelque chose de plus paisible, de plus tranquille, et donc sans doute de moins angoissé, de moins inquiet. Donc oui, je pense qu'en tout cas, c'est un idéal pour moi.
Mais donc pas une absence de mouvement de l'âme, c'est-à-dire on peut continuer d'être ému devant une œuvre d'art, par exemple. J'arrive pas à croire qu'il y ait une absence d'émotion ou de sentiment chez vous.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Mais l'émotion devant l'art, alors ça c'est essentiel, mais c'est une émotion qui n'est pas, qui est une émotion d'éternité, vous voyez ? Donc chez moi, ça fait immédiatement sens. Les seules choses qui font sens sont les choses liées au sentiment d'éternité. Donc c'est dans ce sens-là, si vous voulez. Donc bien évidemment, si l'émotion, c'est une émotion comme ça, esthétique, qui nécessairement a affaire avec une illusion d'éternité, bien sûr, mais un suspens comme ça, oui, là c'est tout à fait intéressant.
Ce qui vous donne envie de vous lever, c'est la continuation de l'ouvrage, de l'œuvre, viser le temps long, ce qui restera. Quand on regarde l'ensemble de vos activités, il semble que vous ne dormiez pas. Vous arrive-t-il d'avoir une vue d'ensemble des choses accomplies depuis votre doctorat en philosophie qui était la métaphysique de l'imagination ?
Non, c'est vrai, non, j'ai très peu de conscience du temps passé. Donc je suis quelqu'un qui oublie, qui efface. Je le fais sans doute naturellement, mais c'est vrai que je n'ai aucune mémoire de moi-même.
Avez-vous déjà été satisfaite d'un de vos ouvrages ?
Non, mais c'est pas problématique. Il s'avère que c'est pas le cas, mais
j'en souffrais pas.
Voilà. Donc je suis pas, vous voyez, c'est pas du tout un déficit comme mon Dieu, la perpétuelle insatisfaite, etc. Non, c'est purement objectif et c'est pas très grave.
L'ouvrage, c'est un peu la tendance inverse de la tendance naturelle de l'homme, c'est-à-dire que si on se laisse faire, on va forcément vers la chute et le déclin. L'ouvrage, c'est la construction, c'est le contraire, oui, de la destruction. Vous, Cynthia Fleury, est-ce qu'il vous arrive d'être découragée ?
Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors après, il y a des techniques pour résister à ces découragements, donc je vais parfois les utiliser. Et puis indépendamment de ça, il y a le fond et la forme, si vous voulez. Donc sur la forme, on va dire, il y a des techniques, limites un peu comportementalistes, etc. Et puis sur le fond, il y a des choses que l'on bâtit néanmoins. Et ce qu'on bâtit, en tout cas moi pour le coup, me maintient, me verticalise. Et donc permet justement de se sentir moins découragé.
Est-ce que vous pourriez nous donner une de ces techniques ?
Oh, les techniques, elles se rapportent, si vous voulez, à votre sujet, puis à vos... alors là, pour le coup, à votre univers sensoriel, à votre univers d'habitude. Donc, véritablement, c'est très, très personnel. Moi, je suis un être, par exemple, qui a besoin de lumière, qui a besoin de chaleur. Simplement ça, vous voyez, de manière très sensorielle, je vais pouvoir réactiver quelque chose de mon corps simplement par la chaleur, simplement par donc le fait de se mettre dans de la chaleur, le fait de boire de la chaleur, le fait d'être sous la chaleur, voilà, simplement ça, vous voyez, c'est très basique, ça va réactiver une puissance de vie chez moi.
D'accord. Je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie. Vous dites une œuvre sans avoir pour autant conscience de l'intégralité de ce que forment déjà vos ouvrages, puisque c'est déjà le cas, vous avez déjà une œuvre derrière vous, Cynthia Fleury. Donc dans quel sens l'entendez-vous ? Et êtes-vous sûre d'y parvenir ? Êtes-vous sûre d'un jour d'être à votre propre hauteur ?
Ah non, pas du tout, justement. Non, là, je suis même quasiment persuadé de l'inverse. Mais je dis quasiment parce que je voudrais pas totalement me détruire le système motivationnel qui est le mien, qui est faible. Vous avez saisi quand même que j'ai un système motivationnel léger.
Pas tant que ça, non.
Mais il est malgré tout déterminé. Et je le dis souvent à mes chers patients, que je salue au passage, parce que c'est une problématique qui est partagée par beaucoup d'entre nous, de leur dire, en fait, moi ça fait très très longtemps, et puis même je pense toujours, je ne me suis pas du tout située du côté du jugement de mon œuvre, comme vous dites, de mon ouvrage, parce que je n'y résisterai pas. Et je pense sincèrement que toute personne un peu sensée ne résiste pas au jugement qu'il formule sur son propre travail. Sauf à être un génie, ce qui existe, mais de fait, pour l'autre cohorte de ce monde, non. Donc résultat, c'est pas une question qui me taraude, et en revanche, la question qui est la mienne, c'est que je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas vivre sans ça. Donc, comme je suis pragmatique, malgré tout, j'ai pris la responsabilité de vivre pour moi, de vivre pour les miens, pour ceux qui m'aiment, etc. Ça, être aimé donne des responsabilités. Et moi, je suis un être qui... Mais il faut le reconnaître, je suis aimé. Je ne suis pas... En tout cas, pas. Je parle de façon très, très dans le privé, si vous voulez. Donc, ça donne des responsabilités. Et donc, résultat, je fais ce que... Je tente, en tout cas, tous les jours, de faire ce que j'ai à faire. Et cette responsabilité est quand même est une continuité. C'est-à-dire, c'est ce qui me fait me lever le matin.
C'est presque une description politique de l'amour que vous donnez, Cynthia Fleury.
Oui.
Vous êtes investie d'un pouvoir et donc d'une responsabilité.
Tout à fait. C'est le rapport que j'ai à l'amour est un rapport exclusivement politique et, je dis souvent, architectural, voilà, géomètre.
Mais vous n'êtes pas dénuée d'affect avec les gens qui vous aiment, j'imagine.
Alors, c'est pas mon... si je les écoute au loin parler, ils peuvent parfois se plaindre de Oui, je suis pas la plus sentimentale du groupe.
D'accord. Alors, dans un instant, on va aborder plusieurs sujets, comme par exemple Proust, Mallarmé, Maurice Blanchot, Russe, Béane, je le prononce sans doute mal, Plotin, Kant, le travail, le style, l'efficacité, et Zhao Wuki.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
J'entends les mille légendes.
Nous sommes avec Cynthia Fleury dans L'Embellie sur France Inter. Vous venez d'entendre Comme la fin du monde, un morceau de Loni.
Well, I can't stop working 'cause I like to work when nothing else is going on. It's bad for the body, but it's good for the soul. Might even keep you breathing when you lose control. Stop working.
Je ne peux pas m'arrêter de travailler car j'aime ça. C'est mauvais pour le corps, mais bon pour l'âme, dit Neil Young dans le titre Can't Stop Working, choisi pour illustrer ce que vous aimeriez changer dans votre environnement, Cynthia Fleury. Travailler mieux et sans doute avec un impact plus conséquent. Alors, on va détailler vos innombrables engagements dans quelques minutes, mais il apparaît que vous êtes une travailleuse acharnée. Comment travailler mieux et est-ce seulement possible quand on fait autant de choses?
Oui, c'est une. Je sais pas. Bah, sans doute travailler mieux, c'est pas quantitatif. Voilà, c'est sans doute de travailler, voilà, avec plus de qualité, de voilà, travailler mieux. Non, je pense que je peux travailler mieux. non, ça me paraît évident même. Non, je peux travailler mieux. Alors, est-ce que c'est mon seul rêve? Sans doute pas, mais ça reste important. Oui, ça reste important.
Vous avez créé la première chaire de philosophie à l'hôpital du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, rattachée à la chaire Humanité et Santé du Conservatoire National des Arts et Métiers. Et ça, c'est un engagement assez vorace, dites-vous, Cynthia Fleury.
Oui, tout à fait. Ça fait, on est jeune, hein, ça fait 6 ans maintenant. Mais c'est vrai que ça prend un temps infini. Enfin, en tout cas, ça va beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a des doctorants, il y a des chargés de mission, il y a des chargés d'études, il y a des chercheurs associés. C'est une aventure assez extraordinaire. On avait voulu faire tous ensemble cette abbaye de Thélème, un lieu, j'espère, opérationnel et en même temps bienveillant et très plastique, etc. Un lieu où on peut penser, où on peut expérimenter, où on peut co-construire avec les autres. J'ai l'impression qu'on y arrive autour de la question des humanités médicales. Donc c'est très précieux et c'est une aventure extrêmement collective.
Et c'est un programme d'enseignement, de recherche et de formation qui fonctionne en Creative Commons, je le dis parce que je trouve ça assez noble, justement, tout est accessible.
En tout cas, on essaye, oui, de tout, voilà, que ce soit les notes, les cours... Alors, il y a des choses qui, bien évidemment, parce qu'il y a des parcours diplômants, donc le fait est que, par exemple, voilà, il y a toujours des endroits, mais sinon, Creative Commons, au sens où si demain, une institution veut créer une chaire de philosophie à l'hôpital, ben voilà, elle peut s'inspirer de tout ce qu'on fait, elle peut le faire avec nous, elle peut le faire sans nous. Donc oui, il y a une volonté comme ça de partager. Alors avec bien évidemment la charte des Creative Commons, hein, il s'agit pas de piller, mais en revanche, il s'agit de faire que ça puisse se déployer.
Cynthia Fleury, vous écrivez dans Sigil la mer, je n'ai aucun goût pour la réalité humaine, alors que cette réalité, vous la sondez dans vos écrits, vous l'embrassez dans vos actions. Est-ce que vous pourriez nous parler, on va commencer à parler politique, vous avez écrit plusieurs ouvrages, hein, qui touchent à la philosophie politique, et puis il y a un tract à venir chez Gallimard, qui est, on dirait qu'il est fait pour cette émission. Je vous laisse nous dire un petit mot dessus.
Ce tract, il va donc sortir au printemps. Nous, on l'a coécrit avec Antoine Fenolio, qui est designer et avec lequel nous avons mis en place un séminaire depuis 4 ans, Design with Care, au Conservatoire et au GHU. Et oui, c'est tout simplement un tract sur ce qui ne peut être volé et qui portera le doux nom de Verstohlen, qui veut dire furtivement en allemand, mais qui est une charte sur 10 points pour inspirer tous ceux qui sont éventuellement découragés, mais surtout pour inspirer les architectes, les politiciens ou les politiques, les universitaires, les designers, enfin quiconque a envie de, voilà, sur 10 points non négociables, ces points qu'on ne peut pas nous voler, qu'on ne doit plus nous voler, et comment ils nous aident effectivement à habiter le monde demain, à construire des lieux, à construire des milieux de vie. Et donc c'était plus simple de faire une charte et d'emmener comme ça là aussi une aventure collective, en tout cas j'espère. Donc voilà, donc ce tract sortira chez Gallimard, oui, au printemps.
Vous faites sans cesse des allers-retours justement entre l'échelle collective et l'échelle individuelle. Dans Sigil Amer, vous répétez justement que le rempart ultime, c'est la psyché individuelle. C'est par là qu'on commence.
Oui, je pense que non seulement c'est par là qu'on commence, c'est par là qu'on termine. Donc je suis d'abord et avant tout un penseur et un défenseur de l'individualisme méthodologique ou de moi ce que j'ai appelé le principe d'individuation, avec bien évidemment après quantité d'autres auteurs. Mais je m'inscris dans cela. Mais sauf que, si vous voulez, un des grands garants, malgré tout, de cette défense du principe d'individuation, ce sont la création de collectifs dignes de ce nom. Donc, malgré tout, on ne peut pas se dessaisir de la question de la création du collectif, de la gouvernance de ce collectif et comment ce collectif vient en même temps aider, appuyer la mise en place d'une individuation digne de ce nom et vice-versa, comment c'était le thème des irremplaçables, comment cette irremplaçabilité vient nourrir par sa différence, par sa singularité, la fibre, réflexive et hyper qualitative d'un mouvement plus collectif.
Je précise pour les auditeurs que justement quand vous parlez d'individuation, il ne s'agit pas, je vais faire un résumé grossier, mais d'égoïsme, mais bien au contraire, il s'agit du fait que dans la société d'aujourd'hui et dans la démocratie telle qu'on essaye de la réguler, on se sent tous remplaçables, surnuméraires, interchangeables, et c'est ce contre quoi vous vous élevez justement, Cynthia Fleury. Vous êtes membre du collectif Roosevelt, un mouvement citoyen né en 2012, avec parmi ses fondateurs Stéphane Hessel et Edgar Morin. Le collectif Roosevelt vise une politique du vouloir vivre et revivre qui nous arrache à une apathie et à une résignation mortelle. C'est excitant comme programme.
Le collectif Roosevelt, c'était une aventure effectivement collective et puis assez universitaire dans son parce que Dominique Méda notamment aussi qui faisait partie de ce collectif. Et qui était une aventure réflexive, dans un temps particulier, qui aujourd'hui ne vit plus, mais qui a eu son temps. Aujourd'hui, sans doute, je ferai les choses différemment, mais j'étais très heureuse au moment de participer de cette aventure-là. Après, si vous voulez, mon sentiment et puis ma réalité, c'est de faire de la politique par mon activité d'enseignant-chercheur, et c'est-à-dire à la fois par l'activité de l'éducation, de la transmission, de l'enseignement, etc., de la recherche, et puis par l'activité thérapeutique. Je crois que c'est vraiment ma façon de bâtir.
Vous avez également tout de même des engagements plus concrets, des engagements écologiques dans diverses fondations, et puis dans le soin, évidemment, qui est l'un de vos grands chantiers de réflexion, Cynthia Fleury. Vous êtes marraine du projet ICAR, je crois.
Oui, tout à fait.
C'est le traitement d'intermittence du sida.
Oui.
Vous avez été membre de la cellule d'urgence médico-psychologique du SAMU de Paris de 2011 à 2015.
Oui, c'était il y a un petit moment maintenant, mais ça a été, là aussi, ça a été un lieu d'apprentissage assez extraordinaire. À l'époque, c'était le référent psychiatre national, c'était Didier Kreminter, qui est parti depuis. Mais c'est vrai que, oui, j'ai pu rencontrer à la fois des collègues exceptionnels. Et puis, c'est une clinique du traumatique et de l'ordinaire mêlé. C'est vrai que c'est un grand, grand terrain, de réflexion, d'apprentissage de ce qu'est une société, tout simplement. Donc la CUMP, j'ai été et puis bon, je n'arrivais plus à être au rendez-vous, de la disponibilité, mais je l'ai fait pendant 4 ans.
J'avais une telle certitude d'avoir Albertine auprès de moi, et je voyais soudain un nouveau visage de l'habitude. Jusqu'ici, je l'avais considéré surtout comme un pouvoir annihilateur qui supprime l'originalité et jusqu'à la conscience des perceptions. Maintenant, je la voyais comme une divinité redoutable. Si rivée à nous, son visage insignifiant si incrusté dans notre cœur que, si elle se détache, si elle se détourne de nous, cette déité que nous ne distinguions presque pas nous inflige des souffrances plus terribles qu'aucune et qu'alors elle est aussi cruelle que la mort.
On va découvrir les artistes et penseurs qui ont changé votre rapport au monde, Cynthia Fleury. Là, on vient d'entendre un extrait d'Albertine disparue de Marcel Proust, lu par Denis Podalydès, le sixième livre d'À la recherche du temps perdu, que vous avez lu adolescente en Cagne, une lecture qui vous a tellement émue, car à l'époque vous étiez très émue, que vous êtes sortie de la classe.
C'est vrai, non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, je ne m'en souviens plus. Je n'ai plus le souvenir de l'émotion.
Vous l'avez effacé délibérément.
Sans doute. Mais en revanche, comme j'ai dû raconter cette histoire, je sais que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par le... Et en règle générale, c'est par le récit ou par le style que je peux appréhender le trop du monde. Et ce que je trouvais merveilleux avec Proust, c'était ça. C'est-à-dire le style proustien me permettait d'attraper le trop du monde. Voilà.
Donc l'agencement, l'ordonnance du trop par le style.
Exactement. Et ça, c'est exactement la manière avec laquelle je peux vivre. Donc ça, c'était absolument merveilleux. Et c'est vrai, en revanche, que Albertine disparue, oui, je suis sortie un instant. Enfin, maintenant, je vous dis, je n'ai plus le souvenir, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Parce qu'il était au plus près, hein, c'est toutes les pages sur le deuil. Mais... En fait, sur l'annonce de la mort d'Albertine et du fait de ne pas avoir encore reçu et d'avoir une lettre qui contredit cela. Et le narrateur est pris entre deux temps où la lettre lui dit « j'arrive », en gros, et où on vient de lui dire « non, elle n'arrivera plus ». Et c'est ce... il raconte la vérité du deuil à venir, c'est-à-dire qu'en somme, il va falloir tuer tous les mois qui ont été... Avec Albertine, il va falloir détruire tous ces instants. Donc c'est tout le sujet fragmentaire que l'on est. Et on comprend que, hélas, il ne suffira pas d'une fois pour faire son deuil. Et que c'est impossible, en fait, de faire son deuil.
En dehors des préceptes consacrés, est-il possible de faire de la poésie? On a pensé que oui, et je crois qu'on a eu raison. Le verre est partout dans la langue où il y a rythme. Partout, excepté dans les affiches à la quatrième page des journaux. Dans le genre appelé prose, il y a des vers quelquefois admirables, de tout rythme. Mais, en vérité, il n'y a pas de prose. Il y a l'alphabet, puis des vers plus ou moins serrés, plus ou moins diffus. Toutes les fois qu'il y a effort au style, il y a versification.
1968, Stéphane Mallarmé, court-métrage de Romer, dont les mots dits par le comédien Jean-Marie Robin viennent d'un entretien que le poète avait accordé à l'Écho de Paris en 1891. Cynthia Fleury, vous avez consacré un ouvrage à celui que l'on qualifie de chef de file du symbolisme, Mallarmé et la parole de l'imam, paru en 2016, une exploration des rapports entre la philosophie islamique et la poésie mallarméenne. Et vous écrivez par exemple, le livre Mallarméen se veut, à l'instar du Coran, l'archétype de toute littérature.
Oui, non mais... c'était dans mes premiers travaux. C'est vrai que j'ai été un enfant d'Henri Corbin. Et Henri Corbin était un immense islamologue et philosophe et philologue, un érudit sans commune mesure. Quand j'ai découvert ses ouvrages, j'ai été absolument... immergé, ça a été extraordinaire. Et donc c'est vrai que ensuite, sans doute que sa philosophie, et notamment sa philosophie de l'imaginal, je l'ai faite un peu mienne. Et donc résultat, je suis allée arpenter d'autres territoires qui n'avaient strictement rien à voir avec cet univers de monde imaginal, en tout cas en apparence. Mais j'ai attrapé ces univers avec ces outils qui arrivaient du monde imaginal corbinien. Et donc Mallarmé, etc. Et pour moi, ça a fait un écho absolu. J'ai toujours eu conscience d'attraper quelque chose d'universel, quels que soient les supports qui m'étaient proposés. Donc Mallarmé, le Coran, le Coran ou d'autres auteurs qui ont été très importants pour moi à ce moment-là, notamment Rousbehan. Bon, pour moi, c'était une seule et même façon d'accéder à l'universel.
Et alors justement, Cynthia Fleury, est-ce qu'il est possible de donner aux auditeurs un conseil de lecture pour entrer dans l'univers de Mallarmé, à qui l'on a souvent reproché son hermétisme que lui jugeait indispensable justement, et pour rentrer dans l'univers du poète mystique soufi et philosophe perse du XIIe siècle, Rouss Behan.
Oui, mais alors moi je suis pas une grande, des conseils de lecture, etc. Je pense que généralement, là, en tout cas, c'est comme ça que j'inviterais les uns et les autres à faire connaissance avec ces deux auteurs, c'est-à-dire tout simplement soit en librairie et vous allez regarder un peu les titres qui sont là, soit parce qu'aujourd'hui, hélas, je dis hélas, mais je veux pas faire ma passéiste, mais souvent on découvre par des voies plus digitales les auteurs et moins en librairie, mais pourquoi pas après tout. Et là, vous partez dans cette grande encyclopédie du net et vous allez découvrir au fil de comme ça de la navigation des vers, et ces vers vont vous inspirer, puis derrière vous allez tirer, et soit ça sera quelque chose en lien avec les noces d'Hérodiade, soit ça sera igitur ou igitur, vous pourrez le prononcer soit de manière latine, soit de manière française, et puis vous rentrez dans cette grande querelle de ceux qui pensent qu'il faut dire igitur ou de ceux qui pensent qu'il faut dire igitur, et voilà, et c'est merveilleux. Là, vous allez être au cœur des grands enjeux de ce monde.
Si on ne s'évanouit pas avant.
Voilà, et puis divagation, que sais-je, la correspondance, parce que là, vous verrez un être Mallarmé aux prises avec sa propre insuffisance d'écrivain et qui partage ça avec Gazalis, ou alors vous irez lire un texte fragmentaire et terrible, qui s'appelle Le tombeau d'Anatole et qui est sur la mort du fils de Mallarmé. Enfin voilà, mais vous pouvez aussi découvrir Mallarmé par tous ceux qui ont pensé Mallarmé. Je pense à Marshall notamment, qui a fait des livres extraordinaires sur Mallarmé. Donc voilà, donc ça c'est pour Mallarmé. Rouss Behan, allez faire un tour du côté de Corbin, de l'ennuagement du cœur. Voilà, allez découvrir cette grande notion de
l'ennuagement du cœur.
L'ennuagement du cœur.
Un petit mot sur Maurice Blanchot ou le néoplatonicien Plotin?
Oui, alors Maurice Blanchot, pareil, tout est à lire chez Blanchot, tant l'écriture est splendide. J'ai rarement vu quelqu'un avec à la fois autant de style et en même temps qui est pour moi un immense penseur, un philosophe, même si ce n'est pas comme ça qu'il est présenté. Donc, oui, là, franchement, alors, voilà, le rapport au monde est possible, encore une fois, si Blanchot est entre le monde et moi. Là, il n'y a plus de soucis. Aucun.
C'est votre intermédiaire de prédilection?
C'est un des intermédiaires, mais c'est extraordinaire, et je l'ai découvert jeune, calmons-nous, mais 17, 18 ans, etc. Et quel bonheur, vraiment, plongez-vous absolument dans n'importe quel entretien infini. Enfin, il y a je ne sais combien de textes possibles. Et puis, alors, il y a des croisements aussi quand vous avez des auteurs qui parlent sur eux-mêmes, etc. Donc, il y a des entrechats comme ça entre Derrida et Blanchot ou entre Derrida et Lévinas, etc. Là aussi, j'aime beaucoup, moi, ces manières de ces rencontres amoureuses par les textes.
Et Plotin qui disait que l'extase était accessible à trois types d'individus, les musiciens, les amants dans le sens de ceux qui éprouvent de l'amour, et les philosophes.
Oui, alors Plotin, ça a été un des grands moments pour moi là aussi. J'ai fait, alors à l'époque, qu'est-ce que c'est plus, c'est pas un mémoire de maîtrise ou je ne sais plus quoi, mais en tout cas sur Plotin, sur les Énéades. Qui s'appelait, je n'avais sans doute honte de rien à l'époque, La paix intérieure est-elle possible ?
Non.
Donc voilà, donc ça montre toute l'humilité du personnage. Donc heureusement, mais c'était un texte sur l'inquiétude comme étant la seule manière d'accéder à un peu de plénitude.
Nous mettrons toutes les références sur le site internet. Évidemment, il y en a beaucoup. I can't keep my cool with you. I've been playing. Curtis Harding, Forevermore dans l'embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Cynthia Fleury.
On dit que vous devez beaucoup aux moralistes français. Est-ce que c'est vrai ?
C'est exact. Aux moralistes français, un peu à la métaphysique allemande, beaucoup à la philosophie grecque et un peu à Dostoïevski.
Je crois que ce que vous devez aussi aux moralistes français, en dehors de leur conception et de leur expression littéraire, c'est également ce souci de la langue qui fait que vous, écrivain roumain, écrivez une langue qui est actuellement un peu délaissée, je veux dire le style classique et quelquefois précieux.
Ce que j'ai beaucoup fréquenté le XVIIIe siècle. Il y a un livre dont on parle très peu et que j'ai lu trois fois uniquement pour m'exercer au style, pour ainsi dire. C'est le livre de Madame de Staël de Launay, qui s'appelle « La Bastille sous la Régence ». Un bouquin qui est très peu connu, mais qui est probablement un des livres les meilleurs écrits qui soit.
Le philosophe Émile Sioran au micro de Jean Le Say en 1949 sur la RTF pour illustrer, Cynthia Fleury, votre réponse à la question « Quel livre est-ce que tout le monde devrait lire pour être armé dans l'existence ?» Vous dites « Il n'y a pas de réponse unique car c'est aussi le sujet qui fait qu'un livre va être un écho déterminant pour le lecteur. Il faut grandir avec les livres, avec le style. » J'ai choisi Sioran car vous parlez de sa sublimation des ténèbres par le style, dans « Sigil la mer ». Ça semble la dernière chose dans laquelle se réfugier, comme une sorte de dandysme verbal.
Ah, non, moi, si vous voulez, là, c'est très intéressant, d'ailleurs, l'extrait que vous avez choisi, parce que, alors après, on est,
bravo Juliette,
on est plus ou moins sensible à cela, mais pour ma part, quand j'entendais des êtres humains dire, écoutez, j'ai beaucoup fréquenté le XVIIIe siècle, je me disais, bon, tout va bien, c'est merveilleux. Et de la même façon, quand je lis dans une correspondance Jean Kélévitch qui dit, écoutez, moi, je travaille pour le 21e, bon, ben, moi, c'est ça me va très bien, les voyez, c'est-à-dire le présent élargi et le fait que, bon, on arrive dans une époque, fait comme on peut, il faut rester des voyageurs du temps, des voyageurs de l'histoire, et voilà, donc moi je fréquente beaucoup le 12e siècle, je me sens très très bien, et en même temps je travaille pour le 23e siècle également, et c'est comme ça que j'arrive à, voilà, et comment raconter ça ? Souvent on raconte ça par le style.
On m'a dit qu'il faisait assez froid au XIIe siècle. J'espère que vous avez un cache-col.
Oui, puis il paraît que pour les jeunes filles, c'était un peu compliqué.
Non, c'était pas terrible. Je vous ai demandé, Cynthia Fleury, quelque chose de beau à recommander aux auditeurs. Vous avez choisi un tableau sur l'amitié du peintre chinois installé en France et disparu en 2013, Zhao Wuqi. Triptyque hommage à mon ami Jean-Paul Riopel, histoire de deux érables canadiens, une œuvre réalisée en 2003. C'est le peintre et sculpteur québécois Jean-Paul Riopel qui lui avait offert deux érables. Et je vous laisse prendre le relais sur cette œuvre.
Oh bah c'est une œuvre splendide, lumineuse à souhait. Absolument, si vous ne savez pas d'emblée comment dire quel est le référent, bah, vous vous dites, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ? C'est de la lumière, c'est etc. Et moi, je trouvais ça merveilleux. Encore une fois, c'est la symbolisation, c'est-à-dire l'amitié, la mort, l'arbre de vie, etc. Et ça fait un triptyque grandiose, magnifique, extraordinairement simple, qui est comme ça, un travail sur la couleur comme Zhao Wuqi le fait. Je suis très sensible à la peinture. Je pense que c'est absolument extraordinaire. Donc, il y en a quantité d'autres, mais je vous invite à... C'est un moment de beau.
Zhao Wuqi a dit, et je pense que ça peut vous parler, Cynthia Fleury, les gens croient que la peinture et l'écriture consistent à reproduire les formes et la ressemblance. Non, le pinceau sert à faire sortir les choses du chaos.
Oui, ça peut tout à fait être une vérité. De toute façon, c'est merveilleux d'entendre les artistes raconter leur processus d'œuvre. Ça, c'est souvent très 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 juste. Oui, c'est pas simplement des gens qui reproduisent. Ce sont des gens qui font advenir le réel.
Et ordonne le chaos. On arrive vers la fin de l'émission et comme engagement que vous acceptez de prendre, Cynthia Fleury, vous avez répondu ceci à la place. Là, j'ai assez de « il faut, je dois ». Donc déjà, assumer la tâche qui est la mienne le plus correctement et efficacement possible, sans casse. Comment esquiver la casse, selon vous ?
Ah oui, ça c'est vraiment la question. Faut esquiver la casse quand même. J'ai fait un livre sur l'accident. Donc, faudrait éviter d'être arrêté par l'accident, quand même. Donc, non, ça, c'est une vraie question. Je pense, d'ailleurs, qui intéresse beaucoup d'entre nous, tous ceux qui sont soumis à des formes d'accélération délirante, insensée, bête, tout simplement. Donc, cette décélération, c'est pas qu'un problème de décélération, c'est un problème... Voilà, donc, c'est vrai que quand vous m'avez demandé c'est quoi le nouvel engagement, j'ai dit, écoutez, non, surtout pas.
Mais il y en a déjà pas mal, des engagements.
On va déjà assumer simplement la tâche qui est là.
Mais ça ne nous dit pas comment... éviter cette casse, c'est-à-dire qu'il y a une part de hasard évidemment dans l'accident, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire de notre côté.
Oui, je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire sur le fait de calmer l'angoisse. Je pense souvent qu'on accélère par angoisse, par peur, et donc il faut calmer la peur. Voilà, et en calmant la peur, je pense qu'on retrouve ce mouvement essentiel qui est celui du repos, qui est celui du temps long, qui est celui d'une certaine forme de lenteur. C'est vrai que nous avons une vision très très réductrice de ce qu'est le mouvement, comme si ce n'était que la seule vitesse et la seule l'agitation. Le mouvement, c'est quelque chose de bien plus vaste, et ça peut être même parfois simplement comme ça un suspens. Et donc oui, là pour le coup, c'est bien, pour moi il y a une belle marge de progression.
Une dernière question, Cynthia Fleury, comment calmez-vous l'angoisse, vous ?
C'est une des choses les plus compliquées, et sincèrement, c'est pas mon point fort.
Ah oui ?
Non, moi je suis un être terriblement inquiet, et donc je pense que je calme l'angoisse justement par des techniques d'effacement et d'oubli. Voilà, donc j'oublie.
Vous y arrivez, vous qui travaillez tant sur l'inconscient, justement.
Je pense que ça se réveille ailleurs, mais on va dire que de manière très volontariste, j'oublie, parce que sinon, je vous dis, je pense que si j'ai pas la mémoire de moi-même, je pense que je ne résisterai pas de toute façon à la mémoire de ma propre vie.
Vous appliquez vos méthodes et c'est très appréciable, justement... pour une philosophe, c'est pas toujours le cas. Merci beaucoup, Cynthia Fleury, d'être venue dans cette émission.
Merci à vous.
Votre dernier essai est paru chez Gallimard sous le titre « Sigil amer, guérir du ressentiment ». Vous figurez aux côtés de Mona Ozouf et Michel Perrot dans le livre d'entretien « Liberté, égalité, fraternité » paru aux éditions de l'Aube. Et vous avez récemment rédigé la préface de « Soins et compassion », un nouveau paradigme pour la philosophie politique sous la direction de Pauline Béguet et Zona Zarik, deux de vos doctorantes. Vous tenez toujours une chronique hebdomadaire pour le journal « L'Humanité ». Et enfin, on en a parlé tout à l'heure, « Avenir au printemps », un tract chez Gallimard coécrit avec Antoine Fenoglio, Ce qui ne peut être volé. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. Je profite du générique de fin pour vous dire que si vous voulez faire partie des jurés du Livre Inter, il reste encore demain toute la journée jusqu'à minuit pour soumettre vos candidatures via le site de France Inter ou par courrier postal à France Inter, Livre Inter, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16, le cachet de la Poste faisant foi pour la date. J'ai toujours voulu prononcer cette phrase solennelle. Oublier le cadavre exquis de fin de l'émission pour autant ? Non. J'espère que votre semaine aura la noblesse d'un trèfle flexueux chevauchant le cosmos. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.